Bonsoir et bienvenue dans Une heure en série, le 23e épisode déjà de cette première saison de l'émission entièrement consacrée à l'actualité des séries télé. Chaque semaine, nous décryptons et analysons cette actualité des séries qui viennent de commencer sur vos petits écrans et nous vous invitons à distinguer le bon grain de livret. Bref, en un mot, commençons, on sauve vos soirées quand même d'un profond ennui. Disons les choses telles qu'elles sont et avec modestie, bien évidemment. Cette semaine, dans Une heure en série, tragédie de l'immigration et prostitution forcée dans Escale fatale sur Arte, Space Opera et conflit avec les Romuliens avec Picard, Jean-Luc Picard sur Amazon et portrait d'expatriés et réflexion sur l'Amérique contemporaine avec Little America sur Netflix.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Bonjour la chouette bande, je suis ravi de vous
saluer
cette semaine autour de nous avec Anne de French Mania, encore un site mais bientôt une parution papier,
oui, on croit les doigts.
Génial, je suis ravi pour vous. Christine Haas, bonjour Christine.
Bonjour.
Et l'indispensable Benoît Lagan, seul représentant, mais digne représentation, de la gente masculine, tous les vendredis à 5h53 dans le 5-7 de Mathilde Munoz. Alors, pas de courrier cette semaine, mais un appel au vote des auditeurs. Vous savez que nous avons, juste à la fin de l'année 2019, remis notre top 20 des, pour nous, meilleures séries de tous les temps. Et évidemment, nous avons reçu énormément de courriers incendiaires. Mais comment avez-vous osé? Mais comment avez-vous pu? Mais comment oublier? Mais comment citer? Enfin bon, bref, on s'en est pris plein la gueule. Il est temps maintenant de rectifier un tout petit peu les choses et de vous offrir, auditrices et auditeurs, le droit de voter. Voilà comme nous l'avons fait. Alors, c'est très simple. Vous allez sur le site de l'émission et vous votez pour votre série française préférée de tous les temps. Même Jacques Houlcrocant sera accepté. Ça fera plaisir à Marie-Nique Rimbaud, notre réalisatrice, qui ne jure que par Jacques Houlcrocant. Et puis votre série étrangère, alors américaine ou autre nationalité, bien évidemment, préférée de tous les temps. Et puis nous ferons une émission spéciale mi-mars consacrée justement à la révélation de ce qui sera un top 10. Nous garderons les 5 meilleures séries françaises et les 5 meilleures séries étrangères que vous aurez citées. Donc allez-y, votez, lâchez-vous, vengez-vous de ce top 20 que vous avez apprécié et détesté en même temps. Et voilà, on sera ravis effectivement de pouvoir vous retrouver pour ce top 10. Mais il est temps à présent de commencer notre émission Premier Débat, Escale Fatale sur Arte depuis le 23 janvier et jusqu'au 30, mais vous pourrez retrouver en intégralité sur Arte TV toute la série jusqu'au 22 février, une série irlandaise de 6 épisodes. Une famille nigériane constituée de la mère Abeni et de ses deux fils accoste en Irlande. Ils sont logés provisoirement, en tout cas c'est ce qu'on leur promet, dans un centre d'accueil. 8 ans plus tard, ils y sont toujours. Le lieu est vétuste, décrépit et sordide, géré par un directeur peu sensible à la cause de ses laissés pour compte.
Mais mes enfants, combien de temps on va devoir rester ici?
Le temps que tout soit en règle. Votre mari, il est mort pendant la traversée?
Oui, à cause de ses brûlures. Les produits chimiques du carburant, sur le bateau. Ils ont dit que je ne pouvais pas le toucher.
C'est quoi ce numéro?
Ça, c'est mon numéro de portable. Si jamais mes enfants se perdent, je suis tout ce qu'ils ont.
Je vais faire une demande d'asile pour vous. Si la demande est acceptée, vous obtiendrez asile et protection en Irlande. En attendant que votre dossier soit traité, vous et vos enfants serez installés dans un logement temporaire. Un centre de prise en charge immédiate. Là-bas, vous aurez de quoi manger et dormir.
Le corps d'une jeune Nigériane est retrouvé sans vie. Une jeune inspectrice mène l'enquête entre parfois l'indifférence et le mépris de ses collègues. Très vite, elle se retrouve sur la piste d'une réalité sordide où il est question d'exploitation de la misère et des corps. Un polar glauque, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, mais frontal, qui capte les humiliations quotidiennes, les terreurs qui refusent de s'estomper et qui dit la multiplicité des drames de ces désormais apatrides. Une série écrite par l'autrice de polar Joss Payne, ainsi que par Stuart Carolla, à qui on devait la série Love and Hate, et réalisée par David Kaye, qui a travaillé entre autres sur Peaky Blinders, avec dans le rôle principal de cette mère courage, on a entendu sa voix, on l'a reconnue, l'excellente Aïssa Maïga, qui interprète pour moi, en tout cas, avec sobriété et intensité, la fêlure intime, rentrée et vertigineuse de cette femme à jamais détruite. Escale Fatale, c'est le nom de votre pseudo sur les réseaux sociaux, Benoît Lagan.
Merci. Voilà, ouais, bravo, ça commence bien.
Oh, mais je m'en vais. J'ai jamais dit que j'étais gentil, de toute façon. Alors, enfin connaisseur d'Escale Fatale, qu'avez-vous pensé de cette série, une fois de plus, je le rappelle, irlandaise?
Alors j'ai plutôt bien aimé, notamment je trouve que le premier épisode est assez puissant parce qu'il est très centré sur le personnage d'Aïssa Maïga justement, et l'extrait que l'on entendait est à l'image de ce premier épisode, donc j'ai trouvé vraiment la série prenante dès le départ, touchante, on sent bien, et on est dans une série irlandaise avec des flics, donc on sait qu'ensuite on va être dans le polar social comme savent le faire nos amis anglo-saxons, donc du coup on est dans cette dynamique, donc une porte d'entrée on va dire vraiment intéressante. Avec le temps, j'ai fini au fil des épisodes, pas non par être complètement désintéressé, parce que je trouve que ça se tient quand même jusqu'au bout et qu'on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, mais il y a quelque chose qui me gêne au fond, c'est-à-dire que la dimension politique profonde de la série disparaît pour un polar social somme toute assez classique, avec l'histoire de la prostitution, de la traite des migrants, enfin voilà. Alors que j'aurais aimé, parce que Jo Spain a été quand même assistante parlementaire, donc elle connaît le monde politique, j'aurais aimé que derrière cette question des migrations, on puisse avoir aussi une dimension plus politique que uniquement le polar finalement assez classique. Donc c'est touchant, ces trajectoires sont vraiment intéressantes, touchant mais finalement pas révoltant. Quand on voit un film souvent de Ken Loach par exemple, on est touché et on est révolté. On sort de là et on veut changer le monde. Moi, quand je sors de cette série, je suis touché, je me dis c'est pas possible qu'on soit dans ce monde-là, mais à la fois est-ce que j'ai envie de partir batailler pour la révolte ? Pas certain.
Alors cet engagement politique, est-ce que ça aurait pu être le vôtre, chère Christine ?
Je sais pas, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que en Irlande, l'Irlande est jusqu'ici plutôt une terre d'émigration puisqu'ils sont beaucoup partis aux États-Unis plutôt qu'une terre d'immigration, c'est donc quelque chose, un phénomène qui était assez nouveau. Et c'est vrai que là, on est dans un univers effroyablement glauque, avec deux femmes, au départ, qui sont installées au cœur du récit. On a l'inspectrice qui est tourmentée et qui mène une enquête, mais le personnage est un tout petit peu schématique. Et elle évolue dans un univers un peu à la manière de Line of Duty. Et toute la partie du récit, on va dire, qui est liée à l'enquête, est un tout petit peu sous-développée et beaucoup moins captivante que celle qu'on va découvrir grâce au personnage d'Abeni, cette espèce de mère courage nigériane, qui est un peu présentée comme une sainte, hein, on va dire. Elle navigue à vue dans un monde qui est répugnant. Elle fait tout ce qu'il faut pour survivre. Donc elle est femme de ménage dans un bordel. Mais elle ne perd pas son humanité. Elle sait rester solidaire de ses camarades d'infortune, quitte même à risquer sa vie. Donc, c'est vrai que cette partie du récit est formidablement tricotée, avec un réalisme qui est quand même parfois assez insupportable, faut bien le dire, mais avec des rebondissements qui maintiennent le suspense face à ce trafic sexuel qui est vraiment sans pitié, qui nous montre comment les femmes sont chosifiées, corrigées, dressées, comme des bêtes, hein, véritablement, traitées comme de la viande, de la marchandise. Mais clairement, la série s'intéresse plus à cette misère humaine qu'à tout ce qui relève de la procédure de police, c'est un peu dommage, et il y a une certaine auto-satisfaction par moment. La narration traîne un peu, se complaît dans l'horreur, par ailleurs aussi sans développer certains personnages qui auraient mérité de l'être, comme par exemple le personnage de Samir, qui est un réfugié algérien, incarné de manière extrêmement bouleversante par Slimane Dazi, qui apporte une certaine...
Très bon comédien également.
Voilà, il apporte une certaine poésie à cette histoire. Et puis il y a un autre personnage aussi, Toby, qui est l'ex-enfant soldat devenu homme de main, qui se présente comme une sorte de machine complètement déréglée. Tout ça sont des personnages qui auraient pu être développés et c'est un petit peu dommage, mais c'est contrebalancé aussi par des moments de mélancolie tranquille, par exemple lorsque Abeni arrive au petit matin, le soleil se lève sur les grues, dans cette espèce de no man's land où sont installés les foyers d'accueil, et ça accentue en fait encore la déshumanisation à laquelle on est en train d'assister, et ça pointe véritablement du doigt un monde écœurant où la vie des plus vulnérables importe peu.
Je suis tellement d'accord. Arakaen,
ouais, oui, je rejoins complètement Christine. Moi, dès le premier épisode, en fait, j'ai été saisie. Je trouve que quand même, c'est une série bouleversante. On sort pas indemne du visionnage de ces 6 épisodes, qui fait un état des lieux glaçant de ces zones de non-droit à Dublin, là où les réfugiés et les migrants tentent de survivre, cette mise sous pression par des mafieux qui les rackettent, qui les exploitent, qui les violentent, c'est ce que tu disais Christine, des hommes, des femmes et des enfants dans la détresse. On suit le parcours d'Abeni, on adopte vraiment son regard, et il y a le meurtre d'une jeune femme du centre où résident Abeni et ses enfants, qui va ouvrir les portes à plusieurs intrigues, à la fois policières, à la fois familiales, à la fois romantiques, à la fois criminelles, et on découvre par le biais de l'enquête et du travail d'Abeni, qui est femme de ménage, tout un réseau, donc c'est ce que vous disiez, de prostitution, de marchands de sommeil, de traite humaine, de business louche, bref, c'est vrai que on fait dans l'hyper glauque. C'est très cru, ça donne une série, je trouve, très contemporaine, engagée, assez prenante, cathartique, qui dénonce quand même, mine de rien, l'inaction de l'Europe face aux demandeurs d'asile, face aux abus dont ils sont victimes. Je trouve que la mise en scène est très efficace, elle est sobre, elle joue joue l'immersion mais n'abuse d'aucun effet de style, donc ça c'est plutôt bon pour la série. Le visage que le réalisateur nous montre du pays est très rude, sans concession, et ça se traduit par des choix de décor et de lumière très basse, très triste. Le scénario est très bien construit, je trouve. À chaque épisode, la tension, la pression monte, progresse. Les acteurs sont tous formidables. Aïssa Maïga est remarquable, bien entendu, mais je trouve que l'ensemble du casting fonctionne vraiment. Et Aïssa Maïga incarne le personnage d'Abeni avec conviction. Elle est bouleversante dans le rôle de cette mère qui a tout de la survivante et qui affronte le pire pour offrir le meilleur à ses deux fils.
Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, qui a sauvé au fond la série, c'est toute la réflexion sur ce qu'est la police. Parce que dans Escale Fatale, ce qui est vraiment raconté, c'est aussi comment ces populations qui ont dû souffrir de la police souvent dans leur pays de départ,
doivent faire confiance
à la police de la terre d'accueil, ce qui n'est pas évident parce qu'ils ont quand même un statut particulier. Donc ça, c'est vraiment très bien montré dans cette série.
Excellente intervention. Cher Benoît, nous avons donc parlé d'Escale Fatale sur Arte, je vous le rappelle, depuis le 23 janvier et jusqu'au 30, mais vous pourrez retrouver l'intégralité de la série sur Arte TV et ce sera disponible jusqu'au 22 février.
Fresh honey, I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up.
Baxter Dury, Slumford. Alors Baxter Dury, pour les spécialistes de la musique pop britannique, c'est le fils de Ian Dury, qui était le leader du groupe Blockheads. Blockheads qui avait créé la chanson préférée de Christine Haas, Sex, Drug and Rock'n'Roll, et dans tous les sens possibles et imaginables. Mais le fils, quand même, s'en sort vachement bien. Ouais. Je trouve la chanson magnifique. Super. Je sais qu'Ava a succombé à cette voix suave, peu rock comme ça. C'était extrait de son nouvel album, The Night Chancer, les chanceux de la nuit. On en ferait bien partie, hein. Et coquine. L'album sortira en mars et il sera en concert chez nous à la Gaîté Lyrique à Paris les 28 et 29 avril.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment où je me permets un petit conseil littéraire en rapport avec la série dont nous venons de parler, Escale Fatale. Et ce livre s'intitule Entre deux mondes. Il est signé Olivier Norek et il est paru chez Michel Lafon. Soit les destins de deux hommes et d'un jeune garçon dans le piège à ciel ouvert de la jungle de Calais. Il y a d'abord Bastien, flic français récemment muté et qui vit avec une épouse dépressive et leur fille toujours en révolte. Un homme de loi dont l'éthique et l'humanité résisteront mal à l'enfer dont il va être témoin. Et puis il y a Adam, également flic mais syrien, qui afin de collaborer avec le pouvoir en place pour mieux pouvoir fuir cette autocratie meurtrière qui est devenue son pays, à la recherche de sa femme et de sa fille, il verra vaciller de manière irréversible sa croyance en l'humanité. Et puis il y a enfin Kilani, une dizaine d'années, gamin africain venu d'on ne sait où puisqu'il a perdu à jamais l'usage de la parole et qui répète inlassablement dans sa tête une comptine magique. Dès que plusieurs cadavres atrocement mutilés sont retrouvés dans le camp, Bastien vient demander son aide à Adam qui donc vit à l'intérieur du camp. Point de départ de ce polar qui est aussi un roman noir sombre comme les abysses, qui raconte le quotidien des migrants en France et à Calais, mais également les enfants soldats en Afrique et le drame de la Syrie auquel nous sommes chaque jour, disons-le, un peu plus indifférents. Un roman au présent, car le futur est incertain et que tous les protagonistes essaient d'oublier le passé. Un roman d'homme, mais sur lequel planent les fantômes des femmes disparues, portées par une écriture nerveuse, fébrile, anxieuse, qui brise tout espoir et toute possibilité de happy end. Entre deux mondes, Olivier Norek, chez Michel Lafon, je vous le recommande. Vous êtes bien sûr France Inter dans une heure en série et j'ai le plaisir ce soir de partager l'antenne avec Ava Kahn, Christine Haas et Benoît Lagan. Et il est temps de commencer le deuxième débat. C'est une des séries les plus attendues de ce début 2020. Picard sur Amazon Prime à partir du 23 janvier et à raison d'un épisode par semaine, c'est amplement suffisant. Nous n'avons vu à ce jour que 3 épisodes. C'est la 7e, je parle sous votre autorité, c'est Benoît ça. Lagan, série inspiré de l'univers intergalactique de Star Trek, pour mémoire, est encore diffusé sur Netflix, Star Trek Discovery. On parle d'ailleurs d'un spin-off de cette série centrée sur le personnage de Michel Yeo. Alors ça, tous les droits. J'adore Michel Yeo, je l'avoue. Le filon est donc loin, on l'a compris, d'être tari et c'est toujours une valeur sûre du petit écran. Alors, petit rappel des faits, mais alors vraiment sommaire, après les 178 épisodes de Star Trek Next Generation et les 4 longs métrages pour le cinéma, Jean-Luc Picard, parce que tout le monde dit Jean-Luc, donc oui, on va pas dire Jean-Luc, oui, hein, on va pas se ridiculiser. Jean-Luc reprend donc du service quelques années après le traumatisme de la destruction de la planète Romulus. D'ailleurs, les Romuliens l'ont toujours un tout petit peu en travers de la gorge, hein, quand même, faut dire les choses, et il fomente un machiavélique plan de revanche.
Je suis venu ici pour être à l'abri du danger. Mais on n'est jamais à l'abri du passé.
Je suis poursuivi, aidez-moi s'il vous plaît.
J'ai rendez-vous.
Votre nom, monsieur ?
Picard, P-I-C-A-R-D.
Ça fait plaisir de vous voir remis sur pied.
Nous avons l'obligation d'enquêter.
Ce nom n'existe pas, Jean-Luc.
Amiral, je parle au nom de la Fédération et des valeurs qu'elle devrait encore représenter.
Ce n'est plus votre maison, Jean-Luc. Rentrez chez vous.
Alors, au début de cette nouvelle série, 14 ans après avoir pris ses distances avec Starfleet, Picard, Jean-Luc, toujours accro au thé Earl Grey. Est-ce qu'on peut faire confiance à un héros qui boit du Earl Grey?
Voilà.
Hein, c'est un vrai problème. Posons-nous la question. Le Earl Grey, quand même. Bon, enfin, bref. Il coule des jours tranquilles dans son château, hein, c'est toujours plus facile que dans un F2, hein, finalement, où il s'occupe de ses vignes lorsque débarque une étrange jeune femme qui l'alerte d'une terrible menace à venir. Jeune femme qui pourrait bien avoir un lien avec le passé de Jean-Luc. Une série créée par Alex Kurtzman, à qui on devait déjà Star Trek Discovery, mais également les excellentes Fringe et Alias, ainsi que l'écrivain Michael Chabon. Juste pour mémoire, c'est l'auteur des Mystères de Pittsburgh, paru chez Pavillon Poche et que je vous recommande vraiment de façon très sincère. Avec Patrick Stewart, comme il se doit bien évidemment dans le rôle d'un Picard Jean-Luc fatigué, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. À un moment, il monte les escaliers. Heureusement qu'on n'a pas la scène en plan séquence parce que sinon, elle aurait duré une demi-heure quand même. Qui est défié par sa hiérarchie, la saison 2 est déjà commandée. Question cruciale, cette nouvelle série vaut-elle le coup d'œil et est-elle accessible à un néophyte? Il nous faut donc une néophyte. Enfin, il y a vraiment très peu de domaines dans lesquels vous le soyez encore, Christine.
Je vous en prie.
Et qui adore le space opéra.
Ah, alors, comment vous dire,
c'est vrai. Non, mais je pense que c'est bon, on a compris.
J'en suis à mon premier Star Trek. Hein. C'est mon tout premier. C'est vrai que c'est un genre habituellement auquel je suis totalement imperméable.
Bah, vous avez 22 ans en même temps, c'est normal.
Un genre très codifié, auquel je ne crois pas du tout. Et quand Picard lui-même dit Je n'aime pas la science-fiction car je ne la comprends pas. Je suis en parfaite adéquation, hein, faut bien le dire.
Il y a une identification avec le
personnage. Je ne craignais qu'une chose, c'était de passer ma journée à bord d'une navette spatiale à circuler entre les planètes. Et franchement, j'étais agréablement surprise. D'abord parce que grâce aux dialogues qui sont habilement explicatifs, j'ai eu toutes les informations nécessaires à la compréhension du récit. Et puis, quand l'aventure a commencé à prendre forme, le suspense s'est installé progressivement et j'ai constaté que, comme souvent, dans la science-fiction, il y a un message politique avec, là, une attaque en règle envers l'administration Trump à travers une fédération des planètes qui aurait tourné le dos à ses valeurs initiales d'intégration, de paix et de fraternité pour devenir hyper-protectionniste dans un esprit évident à la America First. Bon, alors pour moi, Picard, c'est devenu l'incarnation de l'exploration bienveillante, une sorte de démocrate à la Bernie Sanders, un humaniste qui s'engagerait dans une croisade individuelle contre l'intolérance. La série, évidemment, repose, en tout cas pour moi, parce que le reste, je suis encore et toujours imperméable, ça repose pour beaucoup sur le charme de Patrick Stewart, que je découvre, et qui incarne un leader...
Les X-Men, le professeur Xavier, quand
oui,
même.
Oui, mais bon, je l'avais pas vu, là, non
c'est
plus.
C'est parce qu'il se présente comme vous, c'est pour ça.
Donc, c'est vous dire si je suis néophyte en la matière. Et c'est vrai que, pour moi, il incarne un leader fort, raisonnable, réconfortant, courageux, et en même temps, comme tous les gens de son âge, hein, faut bien le dire, parce que si je calcule bien, Picard, il a au moins 94 ans, donc on comprend qu'il soit fatigué. Et en tout cas, Stewart, il a 80 ans l'été prochain. Donc, il a, comme les gens de son âge, un esprit assez nostalgique. Il est plein de regrets, de douleurs, d'amertume. Il a perdu tous ses amis et il ne se reconnaît pas dans l'individualisme ambiant. Et donc, j'ai été touchée par sa poésie mélancolique qui donne une certaine gravité à cette aventure qui, pour l'instant, est assez palpitante. Alors, j'en ai vu que 3 épisodes.
Voilà, nous n'avons vu que les 3 premiers épisodes. Pour l'instant.
C'est un hommage à l'amitié. C'est quelque chose qui est loin de ce que je déteste. Donc, pour le moment, je suis ravie.
Mais oui, c'est ce que je vois. Mais c'est merveilleux. Vous êtes tombée sous le charme de Jean-Luc Picard. Avec le charme de Jean-Luc Picard, de Patrick Stewart et de...
N'a pas opéré.
Voilà.
Définitivement.
Alors, je tiens à dire quand même aux auditeurs qu'en 3 épisodes, on ne voit pas la queue d'un vaisseau spatial. Voilà. Hein. On est très sur Terre, voilà, on boit du Earl Grey.
Exactement.
Mais la grande question métaphysique que nous nous poserons un jour.
C'est d'ailleurs ce qu'on peut dire, c'est que c'est une version très pondérée de Star Trek. Alors, c'est pas vitesse-lumière, effectivement, Star Trek, mais là, c'est la version Earl Grey, pour faire un clin d'œil donc, à tous ces buveurs de thé dans cette série, même si je précise que je n'ai rien contre les buveurs de thé, mais j'ai trouvé que ces premiers épisodes manquaient follement. Ça manquait follement d'inventivité, que le rythme, pour le coup, n'était pas très engageant. J'ai du mal à m'intéresser en réalité au sort des personnages parce que je trouve qu'il y a de gros défauts d'écriture, notamment en ce qui concerne voilà la construction de ces personnages. Visuellement, je ne suis pas très séduite non plus, ni par la photo, ni par la mise en scène, ni par les effets spéciaux. Ce sont des codes du blockbuster qui sont ici appliqués et on ne déborde pas du cahier des charges, de la marge. Je trouve ça un petit peu fadasse, quoi. En ce qui concerne les thèmes, c'est ce que tu disais, Christine, ce qui est au cœur de la série, c'est l'héritage, c'est la transmission, c'est la préservation de l'humanité, les leçons qu'on tire du passé pour fabriquer un avenir meilleur. Mais quand même, on a l'impression avec ces 3 épisodes qu'on nous vend une série de science-fiction humaniste, progressiste, mais que c'est surtout un prétexte pour que Picard retrouve ses joujoux et son vaisseau, pour faire fonctionner la nostalgie des fans de Star Trek. Enfin voilà, on s'attend après ces 3 épisodes à évidemment... retrouver un petit peu le souffle original, mais là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec le démarrage.
Il faut que ça décolle, hein, on est
oui,
bien
voilà.
D'accord. Alors notre spécialiste Star Trek,
professeur Xavier. Donc, qu'ai-je pensé de Picard ? Moi, je suis d'accord avec Christine. Je trouve que elle qui ne connaît rien à l'univers et moi qui connais un petit peu à l'univers, j'ai pris le même plaisir qu'elle. C'est-à-dire que d'abord, on retrouve un personnage qui a une place particulière dans l'histoire de Star Trek, qui correspond à une époque aussi qui était les années 80, fin 80, début 90, d'une Amérique qui
utopique,
voilà. De retrouver ce personnage aujourd'hui sous l'ère Trump, ça me fait énormément plaisir. Ensuite, je suis d'accord avec Ava, mais vu du côté positif, c'est que, oui, c'est une série aussi pour les nostalgiques, mais et c'est tout l'art de Kurtzman et de toute la bande d'Abrams, comme ils l'ont fait aussi avec les films Star Trek, parce que Kurtzman a travaillé aussi sur le film hein, Star Trek de 2009. C'est-à-dire, comment on réinvente...
Ils sont excellents, ceci mis à part.
Voilà. Comment on rejoue avec un univers pour les fans, et aussi pour ceux qui ne connaissent rien. Et je trouve que c'est là où c'est extrêmement réussi. C'est-à-dire que si on n'y connaît rien, on rentre dans cette histoire de complot, on y voit les échos avec le monde actuel, comme ceux des années 60 ont vu les échos avec
leur époque. Parce que c'est très appuyé, c'est ce que disait Christine.
Oui, mais comme ça l'était dans les autres séries auparavant, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'est Star Trek. Et ensuite, le plaisir, oui, de retrouver ce personnage vieillissant qui est dans son château en France, bon, ben très bien.
Parmi les vignes.
Oui, et avec... Et et avec ce personnage, ce robot, sorte d'androïde qu'on voit peindre. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie et on est revenu à ce que Star Trek avait avant que ce soit les blockbusters de cinéma. Le cœur de Star Trek, c'est les personnages. Et moi, ce qui me plaît dans ce que j'ai vu dans les trois premiers épisodes, alors faut voir comment ça évolue, c'est qu'on prend le temps d'être avec ces personnages. Et c'est ça la force d'un grand space opéra, c'est qu'on est prêt à les suivre dans leur vaisseau et d'aventure en aventure parce qu'on les aime et qu'on les connaît profondément. Et c'est ça que je trouve vraiment touchant dans ce Picard.
Non, puis disons les choses, c'est audacieux quand même d'avoir croisé Star Trek avec Hercule Poirot. Si, bah non, oui. Attendez, mais ça c'est novateur quand même. Moi, je m'attendais à ce que David Suchet débarque. Résoudre l'enquête. Non, moi je suis pour ce genre de crossover improbable. Voilà. Évidemment, il n'y a pas Jessica Fletcher, mais bon, non, ça, hein, je vais l'avoir à chaque fois non plus, hein, quand même. Mais bon, bah donc Star Trek qui pour l'instant n'a pas encore décollé, mais qui a réussi auprès de vous, en tout cas.
Ah, moi, j'ai envie de voir le quatrième épisode.
Ah, bah, moi, j'aurais bonnet la semaine prochaine.
Vous me raconterez à ce moment-là. Hein.
See, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Petit solo de saxophone qui nous ramène directement dans les années 80. Faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Je ne les ai pas connues, bien sûr, je suis beaucoup trop jeune. Mais ça me dit quelque chose.
Il aime les sons de chérie, cet homme.
Ça va, je vous demande quelque chose, m'interrompez pas. Ce titre de Sting, An Englishman in New York, date de 1987, et il est en hommage, et je me tourne bien sûr vers notre sommité, une icône de la culture LGBT new-yorkaise qui s'appelait
Quentin Crisp.
Merci beaucoup, je n'y serai jamais arrivé. Voilà, un homme en tout cas tout en élégance intemporelle qui n'est pas sans rappeler celle de Patrick Stewart, Jean-Luc Picard.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de la chronique qui se fait pâmer toutes nos auditrices et peut-être certains auditeurs, oui. En tout cas. Hein, les femmes l'aiment, ça je peux vous le dire.
Grâce à ma voix.
Ouais, alors peut-être pas. En tout cas, je parle de l'effet miroir, bien sûr, de Benoît Lagan. Donc, cher Benoît, cette semaine, dans l'effet miroir, Star Trek.
Oui, pour commencer, la douce voix d'un crooner vulcain, extrait de l'épisode 65 de Star Trek classique, c'était en novembre 68.
Take care, young ladies, and value your wine. Be watchful of young men in their velvet prime. Deeply they'll swallow from your finest kegs. Then swiftly be gone. Leaving bitter dregs.
Extrait musical donc de cet épisode qui a défrayé la chronique et restera dans l'histoire de la télé, non pas parce que Leonard Nimoy y chantait sur une planète qui ressemblait beaucoup plus à Platon qu'à Pluton, hein, plus à la Grèce antique, donc c'était la référence dans cet épisode, mais plus parce que dans cet épisode, le capitaine Kirk y embrassait Uhura. C'était le premier baiser sur la bouche entre un homme blanc et une femme noire dans une série américaine. Alors on a beaucoup écrit à propos de Star Trek classique à quel point la série épousait en pleine guerre du Vietnam et de lutte pour les droits civiques, hein, Luther King est assassiné en 68, une vision pacifique et multiculturelle. Dans ce faisceau, hein, de la Fédération des Planètes, sorte d'États-Unis intergalactiques, on ne cherche pas à rentrer en conflit, mais plutôt à comprendre l'autre, et l'équipage est multi-ethnique, ce qui est encore assez rare, il faut le signaler, dans une série des années 60. Un effet miroir qui n'a jamais quitté la franchise. Quand la série revient en 87, par exemple, à la télé, après avoir infiltré le monde du cinéma, un nouvel équipage débarque donc avec ce fameux Jean-Luc Picard. Et dans cette nouvelle saga, la vision originale est non seulement sauvegardée mais approfondie, la dimension scientifique du voyage intergalactique est consolidée, et en remplaçant l'américain Kirk par le français Picard, on fait du vaisseau un lieu d'accueil, de diplomatie. La Next Generation déplace Star Trek finalement dans une vision du monde beaucoup moins américano-centrée, même si le texte introductif de la version Picard ne change pas de la version kirkienne de Star Trek.
L'espace, l'ultime frontière. Voici le vaisseau galactique Enterprise. Sa mission, explorer des mondes nouveaux et étranges. Découvrir de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations. Et s'aventurer dans les recoins les plus éloignés de la galaxie.
Donc si je suis votre logique, cher Benoît, Star Trek depuis la fin des années 80-90 serait moins américaine et plus universelle.
Alors oui et non, car si la série reste dans sa philosophie de départ à la fois très universelle, elle est terriblement américaine, en particulier dans sa réflexion autour de la constitution de cette société multiculturelle. Mais elle prend un peu plus de hauteur dans les années 80 et 90. Il faut dire qu'en pleine période de dégel entre l'Est et l'Ouest, de world music et de chanteurs sans frontières, âge d'or des Nations Unies, comme l'analyse fort bien Martin Winkler, hein, l'écrivain, le nouvel Enterprise dans Star Trek The Next Generation est une sorte de version spatiale de l'ONU. Et après la mort de Roddenberry, le créateur de la série, en 91, l'éclatement de l'ère soviétique et la guerre notamment en Yougoslavie, le rêve des États-Unis intergalactiques vrille. Cela donne des séries qui questionnent une galaxie en guerre, c'est Star Trek Deep Space Nine, une version plus sombre, où maintenir la paix et l'union est difficile, effet miroir donc de la guerre dans les Balkans. On comprend mieux pourquoi, depuis, avec Star Trek Voyager, on propulse par accident un équipage au fin fond de la galaxie dans des zones inexplorées, comme pour mieux s'éloigner du bordel ambiant et tenter de se ressouder, ou qu'après le 11 septembre et les guerres contre le terrorisme, on fasse des séries Star Trek comme Discovery, aujourd'hui Picard, beaucoup moins utopiques, plus sombres, à l'image des évolutions du monde et des peurs humaines. Star Trek, c'est l'effet miroir de 54 années de géopolitique et de bouleversements planétaires.
Merci beaucoup Benoît. L'effet miroir, une chronique que vous pouvez réécouter en boucle sur notre podcast, ainsi que l'ensemble évidemment de l'émission et l'intégralité des émissions précédentes, et donc des effets miroirs de Benoît Lagan. Troisième débat, on continue un peu sur le sujet de l'immigration, en tout cas de l'expatriation, avec Little America, disponible sur la plateforme Apple TV depuis le 17 janvier. 8 épisodes d'environ 30 minutes, une série d'anthologies, donc on le rappelle, c'est une histoire différente à chaque épisode. Elles ont toutes pour point commun d'être inspirées d'une histoire vraie. Il y a même un épisode, et je trouve ça très joli, qui a été écrit et réalisé par le fils de son héroïne en hommage à sa maman.
Only in America do you add tax
after you see the ticket price.
Only in America can such a perfect game exist. Baseball.
Hamburgers, cheeseburgers, bacon chili cheeseburgers.
Everything on top of everything. Only in America.
不管营养都在汤里面。We're
trying.
This is where we will live.
You see the rock, right?
You see a rock. I see an opportunity.
Un jeune Indien de 11 ans contraint de reprendre la direction de l'hôtel de ses parents après que ces derniers aient été expulsés du territoire américain. Un jeune expatrié venu du Nigeria qui se rêve en cow-boy. Un jeune gay syrien forcé de fuir son pays pour éviter l'hostilité violente de sa famille. Ou encore une Française se retrouvant dans une retraite silencieuse. Un épisode avec Mélanie Laurent qui est plutôt bien puisqu'elle ne parle pas. Voilà, ça c'était la petite méchanceté gratuite voilà. Du matin ou du soir. Des histoires légères ou tragiques, anecdotiques ou emblématiques du sort des expatriés dans un pays où ils sont de plus en plus indésirables, disons les choses telles qu'elles sont, hélas, des portraits sans misérabilisme ni surdramatisation qui nous rappellent ce que nous apportent toujours les autres cultures. Une série produite entre autres par Lee Eisenberg, auteur sur The Office, Kumail Nanjiani, Silicon Valley ou le film encore Big Sick, et Emily V. Gordon, autrice sur The Big Sick et la série Crashing. Donc Little America sur Apple TV. Moi j'ai été ému, j'ai été touché, ça m'a beaucoup plu. Alors c'est contemporain, ça remonte jusqu'aux années 60, mais ça dit effectivement l'importance d'un pays bigarré. Ava Cahen.
Ah bah moi c'est une série que j'ai trouvée très touchante. J'ai aimé son état d'esprit, la manière dont elle présente ses différentes tranches de vie, tout inspiré par l'histoire vraie d'hommes et de femmes dont on nous montre la photo d'ailleurs à la fin de chaque épisode. Et on sent que la série est désireuse de rendre grâce, de rendre hommage aux témoignages dont elle s'inspire. La série met en scène des récits que la télévision américaine a tendance à bouder, c'est très rare hein, qu'elle s'intéresse aux migrants, à quelques rares exceptions. Et puis, elle intervient dans un contexte évidemment où l'immigration est devenue une question politique plutôt clivante aux États-Unis. Ici, c'est le visage pluriel de l'Amérique qui est montré, l'enrichissement du pays par son métissage. Et la série réfléchit aussi autour du mythe du rêve américain, la manière dont celui-ci est perçu par les différentes générations et les générations issues de l'immigration. Et à travers ces différents récits, je trouve ça véritablement touchant. Quoi. Voilà, on sent comment chacun va refaire sa vie aux États-Unis, que ce que ça implique comme sacrifice, que ça implique comme devoir, comme obligation. Chaque épisode porte le nom du personnage principal, donc Kabir, Marisol, Iwekbuna, Sylviane, Béatrice, etc., etc. Tous les épisodes ne se passent pas à la même période, c'est ce que vous disiez, Xavier. Le premier se déroule pendant la présidence Bush, d'autres se passent dans les années 70, 80. Le générique aussi, j'aimerais bien en dire un mot parce qu'il est très ludique, sa musique change à chaque fois, est un indice en fait par les sonorités choisies latino, africaines, indiennes du contexte du récit, des origines de nos héros et souvent les épisodes sont réalisés par un metteur en scène qui a les mêmes origines que les protagonistes. Donc voilà, pour moi c'est une très très bonne surprise, c'est sincère, c'est émouvant, c'est parfois drôle, c'est parfois romantique, ça aborde tout un tas de thématiques sociales, bref ça réconcilie un peu avec l'humanité je trouve.
Christine, vous aussi vous étiez tombée amoureuse des États-Unis il y a fort peu de temps évidemment, mais vous aviez eu cette fascination, cette envie de vous y installer, alors est-ce que la série Little America, dans ce regard sur les expatriés, vous a séduit.
Ça m'a semblé assez bien vu. Hein. C'est une série qui est... Ce qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre assez organique. Hein. Tant il semble que chaque histoire est construite sur l'autre, avec un rebondissement perpétuel, comme une sorte de commentaire de la précédente, mais avec un impact émotionnel global. Rien n'est véritablement trop appuyé. C'est nous qui faisons le lien dans nos têtes. Et chaque histoire, effectivement, a un style, une couleur, une tonalité, une spécificité culturelle, en fonction des origines du protagoniste. Mais selon les cas, c'est vrai qu'on passe du drame à la comédie, à pas grand-chose d'identifiable en ce qui me concerne, comme cette histoire un peu folle, sans rapport avec l'immigration, en dehors du fait que l'héroïne est française,
incarnée
par Mélanie Laurent, qui va rencontrer un homme dans un centre de méditation, silencieux, il faut quand même le préciser, où leur ballet amoureux va s'accomplir d'une sorte de tourbillon, de non-dit, de malentendu, de méprise assez charmant, mais on est assez loin du thème de l'immigration malgré tout. Donc la famille... En dehors de ça, et souvent à la base de ces histoires qui illustrent les différences entre les immigrés de première génération qui se sont battus pour une vie meilleure mais qui restent parfois nostalgiques de ce qu'ils ont laissé derrière eux et ceux de la deuxième génération qui apparaissent aussi mieux intégrés et dont certains ont presque tout oublié de leurs origines. Donc on peut pas nier le bon esprit et la sincérité de cette série, mais on reste quand même malgré tout dans une formule qui selon les épisodes nous intéresse ou pas. Il y a des personnages qui sont aussi plus ou moins sympathiques comme celui qui vient d'Ouganda et qui se projette en cow-boy. Le reste du temps, il est quand même assez antipathique, assez arrogant, donc on a un peu de mal à s'intéresser à lui.
Mais tant mieux, il n'y a pas de version angélique.
Non, mais il n'y a pas de version angélique, c'est vrai que... Mais il y en a d'autres, par ailleurs, qui sont absolument sans intérêt, comme la pâtissière qui est venue faire des gâteaux. Mais
la
en revanche...
Elle arrête des cookies.
Elle arrête des cookies, mais en revanche, elle est très sympathique. En même temps, elle est très sympathique. Donc on a envie de regarder son histoire. Moi, celle qui m'a le plus émue, effectivement, c'est celle du jeune homme indien, dont les parents vont être renvoyés, déportés dans leur pays. Ils vont attendre la régularisation pendant de nombreuses années. Et c'est un épisode, en fait, qui rend vraiment hommage à la patience, à la fortitude de ce jeune homme qui a dû grandir tout seul et qui nous rappelle la politique de tolérance zéro de Donald Trump face à l'immigration mexicaine qui l'a mené à délibérément séparer les parents des enfants.
Benoît.
Alors moi, je suis plus avec Christine, là, pour le coup. J'ai vraiment été emballé du début jusqu'à la fin. La force d'une anthologie, donc c'est le cas de Little America, c'est que, effectivement, chaque épisode est un film en soi. Et donc, on peut en regarder un et ne pas aimer le deuxième. Or, moi, chaque fois, après avoir vu un épisode, j'ai envie de voir un deuxième. Je vois le deuxième, au début, je me dis, oh, cette histoire, et puis je me fais embarquer jusqu'au bout. Et ensuite, je veux tous les voir, même celui avec Mélanie Laurent, que j'ai apprécié pour des propositions de l'épisode, c'est-à-dire de nous faire un épisode quasiment silencieux sur deux tiers de l'épisode. Déjà, c'était assez culotté. Et ensuite, parce que si l'épisode est totalement dans la thématique, c'est parce qu'elle questionne de ce qu'est l'Amérique. Cette Amérique, c'est quoi? L'Amérique, c'est l'endroit où on peut faire fortune en faisant des cookies. L'Amérique, c'est quoi? C'est l'endroit où on peut venir se ressourcer parce qu'on a des problèmes intérieurs. Et c'est en recherche de quelque chose. Et c'est le cas du personnage de Mélanie Laurent. Donc je trouve que chaque personnage, au-delà de la trajectoire peut-être politique, de ce déplacement, construit quelque chose pour chacun des personnages. Et moi, vraiment, l'épisode qui m'a le plus touché, c'est justement celui que vous citiez, Xavier, réalisé par ce réalisateur, donc qui nous dit à la fin qu'en fait c'est l'histoire de sa propre mère, sans rien révéler de l'épisode, parce que je trouve qu'il y a deux chutes dans cet épisode. La chute qu'on évoque ici, c'est que c'est lui qui a réalisé l'épisode et que c'est un des personnages qu'on voit dans l'épisode. Mais la chute, finalement, surprise, je ne l'évoquerai pas. Mais ce qui est toujours, c'est qu'on regarde l'épisode en se disant, mais cette histoire, elle n'a aucun intérêt. Enfin, c'est où l'histoire de l'immigration là aussi? Bon, cette famille. C'est quoi l'histoire? Et au final, on comprend tout, tout s'éclaire avec la chanson. Parce que ce qui est beau, c'est que les génériques sont interprétés dans des versions world et que tous ces gens finissent par se retrouver avec l'Amérique à travers une chanson de la pop américaine. Voilà, il y a une fusion et je trouve ça très 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 beau.
Little America sur Apple TV depuis le 17 janvier.
Me sentir autrement, comme quand j'avais 20 ans, te séduire, t'envahir et attendre de janvier à décembre, te séduire.
Séduire, t'envahir et attendre.
Autrement, un joli titre pour ponctuer ce débat sur l'expatriation et sur l'immigration. Elle est signée Malik Djoudi, il a 37 ans. Moi, j'ai aimé ce ton à part, contemplatif, aérien. Alors vous, aujourd'hui, toutes les voix masculines,
c'est bon.
Définitivement,
c'est vous
bon. Vous en manque. Belle clarté, tout en séduction de la voix et accompagnement cristallin d'une pop électro-solaire qui nous rappelle un peu Dao, évidemment. Et on ne s'en est jamais remis d'Étienne Dao. Il est en tournée actuellement en France, entre autres, dont le 13 mars à Nantes, le 21 à Aix-en-Provence, le 26 à Besançon, et il sera le 10 juin à La Cigale à Paris.
France Inter, une heure en série.
Et la pépite inédite de la semaine a trait avec justement l'Italie américaine, mais également Escale Fatale, puisque je vais vous parler de Party of Five depuis le 8 janvier sur la chaîne câblée Freeform, qui appartient au groupe Disney. Alors, Party of Five, c'est un remake, reboot, on va dire, de la série triomphale des années 90, diffusée chez nous sous le titre de La Vie à 5, produite à l'époque par la chaîne Fox et qui connut 6 saisons et 141 épisodes. Le synopsis est pratiquement à l'identique. L'histoire de 5 frères et sœurs, dont un petit bébé, obligés de vivre ensemble et d'affronter les vicissitudes de la vie quotidienne après la disparition de leurs parents. Dans la série d'origine, ils étaient morts. Là, ils ne le sont pas. Ils sont expatriés hors des États-Unis. Ils sont ramenés dans leur pays d'origine, qui est le Mexique. C'est un vrai point déterminant. Donc, ils sont encore vivants, mais ils sont séparés, évidemment, géographiquement, de leurs enfants. Pas de décès tragique, comme je vous l'ai dit, mais l'expulsion, donc, manu militari, des parents en application des lois d'immigration et de leur durcissement sous la présidence Trump, et ce malgré une intégration que l'on pourrait dire réussie. Les parents tenaient un restaurant, ils ont vécu près de 20 ans sur les territoires américains. Donc on passe du mélo d'origine à un drame social et économique, car depuis le Mexique, les parents doivent trouver du boulot pour subvenir aux besoins de leurs enfants, évidemment, même si les aînés peuvent s'occuper un peu du restaurant, il faut bien quand même subvenir à leurs besoins, il faut continuer de les élever à distance, vérifier les notes, s'inquiéter des maladies et tenter de ne pas les voir sombrer, donc garder toujours le sourire malgré le drame qui les a traversés. De l'autre côté de la frontière, pour les 5 frères et sœurs, c'est l'expérience trop précoce d'un pays qui change, où beaucoup d'anciens amis se réjouissent en réalité de ces lois qui devraient ramener le pays à un peu plus de blancheur au wasp. Certes, nouveau Party of Five, Disney oblige et pétri de bons sentiments assez cato, mais au moins voilà une série tout public qui assume franchement son idéologie et dénonce sans embâge et avec anxiété et lucidité la politique ostraciste de Trump ainsi que les dérives identitaires d'une nation qui s'est pourtant, comme on l'a vu dans l'Italie américaine, construite sur la diversité. Party of Five, le reboot, de gauche enfin, depuis le 8 janvier sur la chaîne câblée Freeform. C'est le plateau télé maintenant. Qu'est-ce qu'on se met devant les yeux? Et on va commencer par Ava qui va nous parler Tétard.
C'est ça, Tétard. C'est une mini-série sur Canal+, aux épisodes très courts, 4 minutes et des poussières, créée par Xavier Lacaille, Clémence Dargent et Aurélie Champagne. Et ça nous raconte le voyage initiatique de deux parents en devenir, dans l'attente de cet objet non identifié qu'est leur enfant à naître. Hein. Ce couple de trentenaires, c'est Bérangère Krief et Esteban Esteban, qui est acteur et membre du groupe Naïve New Beaters, qui l'interprète. Bérangère Krief est Emma, entre deux jobs, déterminée à monter sa boîte un jour, peut-être, on ne sait pas trop. Esteban joue Ben, flemmard, pardon, graphiste freelance, mais c'est à peu près la même chose. Et ensemble, ils vont affronter la grossesse. Et ensemble, donc, ils vont affronter la grossesse comme un défi. Il y a même un compte à rebours hein, qui s'enclenche, comme dans les séries à suspense, parce qu'on ne peut pas dire que l'enfant était tout à fait prévu au programme, ce qui va permettre à la série de délirer un maximum, d'oser la science-fiction, l'absurde, le décalage, pour mieux décoller les clichés sur la parentalité, sur la grossesse, sur la maternité. Je trouve que la série a un ton très décomplexé qui, moi, m'a fait du bien. Elle est créative, elle est originale, elle pose des questions qu'on n'ose jamais poser et elle le fait à travers ce couple qui est face à l'inconnu, hein, qui est face à mille et une énigmes. Et j'avoue qu'après être tombée un peu par hasard sur le premier épisode, j'ai eu envie de continuer à suivre les péripéties de ce couple attachant et excentrique et j'ai eu envie, par conséquent, de vous recommander cette mini-série pleine d'humour et de tendresse qui est accessible en replay sur MyCanal ou sur le site de Canal+. Il y a une dizaine d'épisodes et c'est réjouissant, ça s'appelle Tétard.
Et vous l'avez très bien défendu. Alors, je vais vous laisser prononcer le titre de votre série, cher Benoît Lagan, dans votre accent anglais qui est à peu près
pourri
du mien, voilà, mais c'est sur Apple TV.
For All Mankind.
Walter, Mrs. Pearl.
J'ai répété toute la nuit.
Oui, ça se voit d'ailleurs, vous avez des cernes.
Voilà. C'est une série signée Ronald Moore, qui avait notamment travaillé sur Battlestar Galactica, donc pour vous situer le personnage, la nouvelle version.
Hein. C'est un space opéra, je le dis pour Christine Hatt.
Qui a écrit les épisodes de Star Trek avec fameux Picard, qui a commencé comme ça, mais qui, c'est pour Christine, a travaillé sur Outlander aussi.
Super.
Voilà, bon bref.
Allez, dame en jupe,
enfin,
c'est votre truc.
Enfin.
Bon bref, Benoît.
Donc c'est quoi? C'est une uchronie, c'est-à-dire que tout commence par cette question. Et si les Américains n'avaient pas posé en premier le pied sur la Lune? Le pion avait été damné par... les Soviétiques, bien évidemment. Eh bien, ça fout le bazar. C'est-à-dire que tout d'un coup, nos Américains, ils sont complètement perdus. Toute leur conquête spatiale vrille. Au point que, très vite, qui envoie la première cosmonaute russe? C'est les Russes à nouveau. Et c'est pas une astronaute, c'est une cosmonaute. Donc en fait, ils se font damner le pion comme ça en permanence au début de la conquête spatiale. Ce qui fait que les Américains, ils ont quand même des choses à raconter derrière tout ça. Et on développe, la série se développe du coup de façon hyper intelligente sur cette Amérique de 69 à 75. Parce que la première saison de 10 épisodes raconte cette Amérique de 69 à 75, mais légèrement vrillée. C'est juste ça qui change. Alors bien évidemment, Nixon et Nixon, on va avoir Ted Kennedy qui va arriver au pouvoir. Bon, tout ça est vachement bien écrit et intéressant, mais au-delà de la pure uchronie, ce qui est hyper touchant dans cette série, c'est qu'on nous raconte ce que c'est que la conquête spatiale vue au plus profond de l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'être femme astronaute? Qu'est-ce que c'est qu'être homme d'astronaute, à partir du moment où les femmes sont envoyées? C'est bouleversant, on a envie de suivre chaque épisode, et je trouve que c'est à l'image des séries de Apple TV qu'on a pu voir jusqu'à présent, qui sont plutôt réussies, parce qu'elles travaillent finalement un genre que le câble américain aurait pu travailler, mais tout en étant en finesse, sans être racoleur, jamais. Juste être dans du propos fort et puissant. Il va y avoir une saison 2, donc si vous pouvez voir ces 10 épisodes-là, allez-y, c'est merveilleux.
Je crois me souvenir avoir lu un courrier d'auditrice qui nous avait recommandé cette série, justement For All Mankind, et moi aussi je me suis entraîné. Bravo. Sur Apple TV. Il nous reste Christine Haas. Ce que nous réservez-vous dans ce plateau télé?
Eh bien, je voudrais parler de Larry et son nombril, qui a été diffusé entre 2000 et 2011 sur la chaîne américaine HBO. Puis il y a eu une 9e saison en 2017 et puis une 10e en 2019. Et puis aujourd'hui, la série est diffusée dans son intégralité sur OCS.
Ah, chouette, ouais.
Et le créateur Larry David avait d'ailleurs lui-même annoncé son retour en déclarant « Pour reprendre les mots immortels de Jules César, je suis parti, je n'ai rien fait, je suis revenu. » Donc voilà qui vous donne un peu l'esprit du bonhomme qui, comme Woody Allen, est né à Brooklyn, dans une famille juive new-yorkaise. Il a d'ailleurs joué dans Whatever Works de Woody Allen. Et Larry David, il faut quand même savoir, c'est une superstar aux États-Unis. Il a été acteur, auteur de Saturday Night Live, co-créateur de Seinfeld, dont le succès lui a rapporté quelques 250 millions de dollars, grâce à quoi il a émigré sur la côte ouest où il a créé Larry et son nombril, qui est une version fictive de lui-même, à savoir un producteur sexagénaire, hollywoodien, richissime, mais névrosé, narcissique et souvent déplaisant. Bref, c'est un emmerdeur qui cumule les gaffes, les mensonges, adore être politiquement incorrect. Par exemple, il est juif et il a surnommé sa femme Hitler. Donc on est entre le sitcom et le faux documentaire. On suit donc le faux quotidien d'un faux personnage portant son nom et inspiré de sa vraie personnalité. Alors on l'accompagne dans ses rendez-vous professionnels, ses dîners entre amis, sa vue conjugale, et à chaque épisode, qu'on peut voir, je le précise dans le désordre, il crée une situation absurde, genre un pantalon qui fait des plis, donnant l'impression qu'il a une érection, commet des faux pas transgressifs, tout ça pour offrir une critique féroce de la société hollywoodienne. Donc son personnage est aussi attachant qu'irritant, tout y passe, son humour grinçant fait parfois polémique, mais en ce qui me concerne, je le trouve vraiment hilarant et irrésistible.
Merci beaucoup Christine d'avoir réussi à placer le mot érection dans cette chronique, bien évidemment.
Je vous en prie, c'est
un
plaisir.
Vous reconnais bien là. Excellent plateau télé à tous trois, merci beaucoup. Eh bien, une heure en série, c'est fini. Va Christine, Benoît, mille merci d'y avoir participé. Nous avons parlé, plutôt recommandé globalement, on était presque gentils. Aujourd'hui, ça ne durera évidemment pas. Escale fatale sur Arte, Picard, Jean-Luc Picard sur Amazon Prime et Little America sur Apple TV. La semaine prochaine, nous évoquerons entre autres Our Boys, excellente série israélienne sur Canal+, et Il a déjà tes yeux, comédie sur France 2. Je vous rappelle Le vote des auditeurs, vengez-vous de ce top 20 qui vous a tant séduit et irrité. Voilà, mettez-nous une claque radiophonique en nous disant qu'on n'y connaît rien, mais votez, je vous en prie, sur le site de l'émission. Une série française, une série étrangère, toutes nationalités confondues. Et mi-mars, nous révélerons votre top 10 et à nous de se moquer. Voilà, on pourra renverser la tendance. Non, bien évidemment, ce sera extrêmement bienveillant. Je vous rappelle, demain, Le Masque et la Plume, présenté par l'excellent Jérôme Garcin, une heure en série numéro 23, c'est fini, on referme le poste, une émission à écouter en podcast, ainsi que les épisodes précédents, faites-vous une bibliothèque d'une heure en série, il y a un site internet où vous pouvez donc voter, une fois encore pour le vote des auditeurs, je vous rappellerai bien évidemment, mais nous envoyez des courriers de préférence gentils et des chèques, ça, il n'y a aucun problème bien évidemment. Une heure en série a été réalisée comme toujours par Marie-Annick Rimbaud, préparée avec Amel Kaldi, la programmation musicale signée Muriel Pérez, et cette semaine à la technique, Loïc Frappsos.